Prions le Seigneur avant d'écouter la parole de Dieu. Seigneur notre Dieu, merci pour ce moment merveilleux que tu nous accordes par ta grâce. Ta parole déclare que au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. C'est cette parole que nous voulons écouter maintenant, Seigneur. Dispose nos cœurs, afin que nos cœurs soient réceptifs à cette parole, Seigneur, et que cette parole, Seigneur, puisse rester, demeurer en nous. Et ouvre, Seigneur, notre entendement, notre esprit, afin que nous puissions comprendre, contempler les merveilles qui se trouvent dans ta parole. Guide-nous pendant ce moment, au nom de Jésus. Amen. Voilà, frères et sœurs, c'est vrai que ça sent qu'on est au mois d'août. On est au mois d'août, il y a ceux qui partent, mais bon, il y a certains qui commencent déjà à revenir petit à petit. Et nous bénissons le Seigneur pour cela. Nous allons ouvrir nos Bibles dans la première épître de Jean, chapitre 2, le verset 15 à 17. 1 Jean 2, 15 à 17. La première épître de Jean, au chapitre 2, le verset 15 à 17. Nous lisons la parole de Dieu. Jean 1, chapitre 2, verset 15. « N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. » Le verset 16, « Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. » Le verset 17, « Et le monde passe et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. » Oui, ce sont des paroles que l'apôtre Jean a adressées à nos aînés, aux premiers chrétiens, aux chrétiens de l'époque. Mais ces paroles nous concernent aussi. Cet avertissement, cette recommandation nous concerne aussi aujourd'hui. Vous savez, dans la prière de notre Seigneur Jésus-Christ dans l'évangile de Jean chapitre 17, la prière qu'on dit souvent la prière sacerdotale, dans cette prière, Jésus-Christ avait prié pour ses disciples et il a prié en ces termes. Si nous pouvons lire Jean 15 à partir du verset 17 et 16, le Seigneur Jésus a prié ainsi. « Je ne te demande pas, Père, de les retirer du monde. » Il parle ici pour les disciples. « Je ne te demande pas, Père, de les retirer du monde, mais de les préserver du mal. Ils ne sont pas du monde comme moi, je ne suis pas du monde. » Et dans cette prière de notre Seigneur Jésus-Christ, le Seigneur fait la différence entre être dans le monde et appartenir à ce monde. Il y a une différence qui est faite, que Jésus-Christ a faite dans cette prière. Si vous lisez tous les chapitres 17, vous remarquerez cela. Nous qui sommes enfants de Dieu, nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Cela voudrait dire que nous ne devons pas nous laisser influencer et vivre selon les normes ou les principes de ce monde, parce que nous ne sommes pas de ce monde. Et le monde dont parle l'apôtre Jean dans le passage que nous avons lu n'est pas la planète Terre, n'est pas non plus l'univers que nous habitons, la planète Terre que nous habitons. Non, Ce n'est pas de ce monde que l'apôtre Jean parle. Parce que la Bible dit, le monde que Dieu a créé, l'univers que Dieu a créé est bon. Lisez le récit de la création dans Genèse. Vous verrez que Dieu a déclaré tout ce qu'il a fait était très bon. Très bon. Et la Bible déclare même que elle reflète cette planète Terre. Ce monde reflète même la gloire de Dieu. Acte 17, 24 dit ceci que c'est Dieu qui a fait le monde et tout ce qu'il contient. Donc le monde que l'apôtre Jean parle dans le passage que nous venons de lire, retenons que ce n'est pas le monde que nous habitons, parce que ce que Dieu a créé est bon, est très bon même. L'apôtre Jean ne parle pas non plus du monde de l'humanité, nous les hommes. Non, il ne parle pas de ce monde-là de l'humanité. Les hommes que nous sommes. Pourquoi? Parce que nous savons que Dieu aime l'humanité. Dieu aime les hommes. Il ne s'agit pas de ce monde-là. D'ailleurs, la parole de Dieu dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, il ne s'agit pas de ce monde-là que l'apôtre Jean parle dans Jean 1, chapitre 2, le verset 15 à 17. Ne pas aimer le monde ne signifie pas non plus aussi de ne pas aimer ton voisin, ton collègue de travail. Non, ce n'est pas ça. Il ne s'agit pas de ça. Il ne s'agit pas de ça. Parce que le Seigneur Jésus-Christ lui-même nous recommande dans sa parole. Il nous dit d'aimer notre prochain. D'aimer notre prochain. Et le Seigneur est allé même plus loin. Il dit d'aimer même nos ennemis. Donc, il ne s'agit pas de ce monde-là, de l'humanité des hommes dont parle l'apôtre Jean dans ce passage. Le monde dont il est question dans ce passage, c'est le siècle présent. C'est le siècle présent. Le système que l'homme a inventé pour être heureux sans Jésus-Christ. C'est ça le monde dont parle l'apôtre Jean. Ce monde-là, là où Jésus-Christ n'est ni reçu, ni accepté, et ni même aimé. C'est de ce monde-là dont il est question ici. Ce monde ou ce système qui glorifie l'homme au lieu de glorifier Dieu. Et la Bible dit, parce que ce monde-là est sous la puissance du malin. Si nous pouvons lire ça dans 1 Jean chapitre 5, le verset 19. Ce monde-là est sous la puissance du malin. Et 1 Jean 5, 10 dit, nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. C'est de ce monde-là, de ce système-là dont il est question. Un système qui s'oppose à l'œuvre de Jésus-Christ accomplie sur la croix. C'est pour cela l'apôtre Jean dit au verset 16, car tout ce qui est dans le monde ne vient point du Père, mais du monde. Frères et sœurs, l'apôtre Jean donne un avertissement, mais un commandement, un ordre fort. Il dit au verset 15, qu'est-ce qu'il dit? N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. N'aimez point le monde, ni ce qui est dans le monde. Et il explique aux premiers chrétiens, il explique pourquoi il ne faut pas aimer le monde. Et il leur exhorte même à rester fidèles au Seigneur dans leur amour, de rester fidèles au Seigneur. Et pour cela, l'apôtre Jean avance trois raisons de ne pas aimer le monde. Trois raisons pour ne pas aimer le monde. Et ces trois raisons constituent aussi les trois points que nous allons méditer ensemble ce matin. La première raison ou le premier point que l'apôtre Jean avance, c'est l'opposition entre l'amour du monde et l'amour du Père. Il y a une opposition entre l'amour du monde et l'amour de Dieu et l'amour du Père. La deuxième raison que l'apôtre Jean avance, ça sera aussi notre deuxième point, tout ce qui est dans le monde ne vient pas du Père. Et la troisième raison que l'apôtre Jean avance, c'est la fragilité du monde par rapport à l'éternité. La fragilité du monde par rapport à l'éternité. Le monde passe et le monde passera. Le monde est fragile. Alors, la première raison, le premier point, l'opposition entre l'amour du monde et l'amour du Père. Nous lisons au verset 15, nous lisons au verset 15b, vers la fin, « Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. » N'aimez pas le monde, parce que si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. En d'autres termes, ou en un mot, la raison pour laquelle nous ne devons pas aimer le monde est que nous ne pouvons pas aimer le monde et Dieu en même temps. Nous ne pouvons pas aimer le monde et Dieu en même temps. Vous savez, déjà dans nos foyers, quand on est marié, on est jaloux. On n'aime pas que, mais non. C'est mon épouse, point barre. On est déjà jaloux. Il ne peut pas aller ailleurs, il ne peut pas aimer quelqu'un d'autre. Et Dieu, notre Dieu, c'est lui le tout-puissant, le créateur de toutes choses. La Bible dit que nous avons un Dieu qui est jaloux. Qui ne veut pas que son honneur, sa gloire puisse aller vers quelqu'un d'autre. Nous ne pouvons pas aimer Dieu et aimer aussi le monde en même temps. Ce n'est pas possible. Parce que le monde a une vision différente de la façon dont nous devrions vivre. Le monde a sa façon de voir les choses. Et Dieu a une autre façon de voir les choses, de la manière dont nous devons vivre dans le monde. L'amour pour le monde repousse l'amour pour Dieu. Et l'amour pour Dieu repousse aussi l'amour pour le monde. Il y a, je ne sais pas, nos amis informaticiens disent, il y a incompatibilité. Ça peut pas aller, tu aimes le monde et tu aimes Dieu en même temps. C'est impossible, impossible. D'ailleurs, la Bible affirme cette vérité, confirme même cette vérité dans Jacques chapitre 4, le verset 4, la parole de Dieu nous dit, « Adultère que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour pour le monde est synonyme de haine contre Dieu ?» Dans d'autres versions, il est marqué, « L'amour pour le monde est inimitié contre Dieu. » C'est lui donc qui veut être l'ami du monde. C'est fait quoi ? Ou c'est fait qui ? Il s'est fait ennemi de Dieu. Voici ce que la Bible dit. Celui qui aime le monde, qui veut être l'ami du monde, qui veut aimer le monde, s'est fait ennemi de Dieu. Oui, tu ne peux pas aimer Dieu ou aimer le monde et en même temps aimer Dieu aussi. Impossible. Jésus avait enseigné aussi cette vérité à ses disciples dans Matthieu chapitre 6, le verset 24. Qu'est-ce qu'il leur a dit ? Le Seigneur Jésus-Christ a dit ceci. nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez pas servir Dieu et Mammon. Voilà ce que Jésus a dit. Donc c'est impossible d'avoir un pied dedans, un pied dehors. Non. Et l'apôtre Jean met en garde le chrétien. L'apôtre Jean lance cet avertissement que vous ne pouvez pas avoir l'amour pour le monde et en même temps avoir l'amour pour Dieu. Frères et sœurs, n'aimons pas le monde pour la simple raison que le monde s'oppose au Père. Le monde s'oppose au Père. La deuxième raison que l'apôtre Jean avance de ne pas aimer le monde, l'apôtre Jean dit, tout ce qui est dans le monde ne vient pas du Père. Tout ce que le monde contient, tout ce que le monde offre, tout ce qui est dans le monde ne vient pas de Dieu. Le verset 16 dit ceci, si nous pouvons relire le verset 16, car tout ce qui est dans le monde, qu'est-ce qu'il y a dans le monde? La convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. Voilà ce que la parole de Dieu dit. L'apôtre Jean exhorte les chrétiens de ne pas aimer le monde ni les choses qui sont dans le monde. Et tout ce qui est dans le monde, tout ce que le monde contient, l'apôtre Jean résume cela en trois points. En trois points. Un, la convoitise de la chair. Deux, la convoitise des yeux. Et trois, l'orgueil de la vie. Si on se souvient un peu, quand on avait partagé quand on avait parlé de Moïse, quand il avait fait son choix, le choix de Moïse d'obéir à Dieu par la foi, l'Égypte lui offrait la même chose, la même chose, la richesse, la gloire. Mais Moïse a tout refusé cela, tout ce que l'Égypte lui offrait, tout ce que le monde lui offrait. Et ici, l'apôtre Jean résume ce que le monde contient en ces trois points. D'une manière générale, la convoitise, bon, c'est le mot français, c'est un mot français, j'ai essayé de chercher dans le dictionnaire pour bien comprendre quand même l'essence du mot convoitise. D'une manière générale, la convoitise, d'après le dictionnaire biblique, c'est un désir extrême, un désir qui dépasse la normale. En un mot, un désir excessif de posséder quelque chose. C'est ça la convoitise. Aïe! Ça la convoitise. Et il y a certains, les parents, je crois, les savent, hein, ramener un peu les petits enfants chez Carrefour ou à Auchan et puis passer sur le rayon de chocolat. Oh là là, c'est irrésistible. Aïe, chocolat, chocolat. Donc, dès qu'ils voient chocolat, je vais vous raconter une petite histoire. Il y a cela quelques années, il y avait un petit neveu qui était venu à la maison. Bon, il fallait le sortir quand même. Il ne pouvait pas rester à la maison du matin jusqu'au soir. On faisait un petit tour. Et sans le savoir, moi, donc, on est passé devant McDo. Moi, donc, bon, je n'ai même pas vu le McDo. Et le petit neveu, tout d'un coup, il commence à dire, lui-même, dans la voiture, « Tonton, tonton, aïe, McDonald's ne me regarde pas. McDonald's ne me regarde pas. » Comment se fait que McDonald's ne te regarde pas? Donc, j'ai tout de suite compris qu'il était tellement attiré, ce désir-là d'aller. Après, je lui ai demandé, tu veux qu'on fasse un petit tour? Oui. Irrésistible. La convoitise, c'est ça. C'est ça. Donc, un désir excessif de posséder quelque chose. Et en lisant la Bible, frères et sœurs, nous voyons que la convoitise était à la base de la chute de l'homme dans le jardin d'Éden. La convoitise était à la base de la chute de nos premiers parents. Si nous lisons Genèse chapitre 3, le verset 6, Genèse chapitre 3 et le verset 6, nous lisons ceci à partir du verset 6. On peut commencer même à partir du verset 4. Alors le serpent dit à la femme, on commence à partir du premier verset. C'est mieux pour bien comprendre le contexte. Voilà. Le serpent, Genèse chapitre 3, partie du premier verset, le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, « Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin ?» La femme répondit au serpent, « Nous mangeons du fruit des arbres du jardin. » Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point de peur que vous ne mourrez. Le verset 4, alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Verset 6. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Il en donna aussi à son mari qui était à côté d'elle. Le verset 6 dit, la femme vit que le fruit, l'arbre était bon à manger. La femme vit que l'arbre était bon à manger. Bon à manger. Ça, c'est l'image de la convoitise de la chair. L'image de la convoitise de la chair. L'arbre était bon à manger. Deuxièmement, Ève vit que l'arbre était agréable. À quoi? À la vue. C'est l'image de la convoitise des yeux. Les yeux ont vu que l'arbre était agréable. Et enfin, l'arbre était précieux pour ouvrir l'intelligence, c'est l'image de l'orgueil de la vie. Et nous allons voir le premier sous-point, la convoitise de la chair. Parce que l'apôtre Jean résume tout ce qui est dans le monde en trois petits points. La convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie. Et le premier sous-point, c'est la convoitise de la chair. Vous savez, la convoitise de la chair, c'est la satisfaction du désir humain. La satisfaction du désir humain. Et cette satisfaction est faite en dehors de la volonté de Dieu. C'est là où est le problème. La convoitise de la chair, c'est la satisfaction du désir humain. Et cette satisfaction devient problème, devient péché, quand elle est faite en dehors de la volonté de Dieu. En dehors de la volonté de Dieu. Parce qu'elle concerne les appétits charnels du corps. Les appétits charnels du corps provenant de la vieille nature, provenant de la chair. Car la Bible dit, la chair a ses désirs. Et ces désirs, les désirs de la chair sont contraires à ceux de l'esprit. C'est ce que la parole de Dieu dit. Et quels sont ces désirs? Nous pouvons voir cela dans Galates chapitre 5. Galates chapitre 5 à partir du verset 19. Galates chapitre 5, à partir du verset 19. Quels sont ces désirs? Les désirs de la chair La parole de Dieu nous dit, à partir du verset 19, Galates 5, « Or, les œuvres de la chair ou les désirs de la chair sont manifestes. » Et la liste commence par là. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Voilà, une satisfaction du désir humain, mais cette satisfaction est faite en dehors de la volonté de Dieu. Et c'est là où il y a le problème. Et c'est là où il y a le problème, c'est là où ça devient un péché. Mais la parole de Dieu dit aussi que ceux qui sont en Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Ont crucifié la chair avec ses convoitises. Galates chapitre 5, le verset 24. Parce que dans la convoitise de la chair, dans le désir de la chair, nous voyons que la vieille nature, la chair, trouve un plaisir dans l'objet convoité. Il y a un plaisir que la chair trouve dans ce péché-là. Il y a un désir que la vieille nature, notre vieille nature, trouve dans l'objet convoité. Et s'il faut revenir dans Genèse chapitre 3, le verset 6, Ève a trouvé que l'arbre était quoi ? Était bon à manger. Quand on trouve quelque chose qui est bon à manger, il y a un plaisir qu'on trouve là-dedans. Sinon, on ne va pas remanger la même chose la deuxième ou la troisième fois. Ève a trouvé que l'arbre était bon à manger. Frères et sœurs, il n'y a rien de mal à manger, hein, ou à boire, ou à dormir. Mais le problème est que lorsque la nature charnelle, notre vieille nature, contrôle ces choses, c'est là où elles deviennent un péché, une convoitise pécheresse. Parce que elles ne sont pas sous le contrôle de la volonté de Dieu, mais sont sous le contrôle de la chair, de la vieille nature. Et c'est là où il y a le problème. Ève a vu que l'arbre était bon à manger. Est-ce que c'était bon à manger selon la volonté de Dieu? Ce n'est pas le cas. C'était bon à manger par rapport à lui-même, par rapport à sa chair. Parce que Dieu avait dit que vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez même pas. Le deuxième sous-point, c'est la convoitise des yeux. Vous savez, frères et sœurs, dans la convoitise des yeux, les yeux sont attirés par quelque chose en fonction de son apparence agréable. Et dans quel but? Dans le but de satisfaire quoi? Un désir. Et un désir de quoi? Toujours de la chair, de la vieille nature. Les yeux sont attirés par quelque chose qui est agréable à la vue. Et souvent, ce sont les objets ou quelque chose, des personnes, des objets ou autre chose qui attirent le regard. Et cela produit un désir de posséder des choses que Dieu n'a pas données. C'est ça le problème. Ça crée un désir de posséder des choses que Dieu n'a pas données. S'il faut toujours revenir dans le jardin d'Éden, Ève vit que l'arbre était quoi? Était agréable à la vue. C'est le regard, c'est les yeux. Comme disait un frère, c'est la porte d'entrée. C'est la porte d'entrée, les yeux. Ève a vu que l'arbre était agréable à la vue. Et cela était un plaisir pour les yeux. Il trouvait un plaisir de regarder cela. Waouh! Waouh! C'est ça le problème. C'est le regard d'Ève qui a provoqué le désir coupable en elle. La convoitise de Dieu. Et la convoitise de Dieu, frères et sœurs, si nous pouvons aussi citer quelques exemples dans la Bible, la convoitise de Dieu de David pour Bathsheba, vous connaissez l'histoire. C'est un autre exemple fort qui a conduit David à commettre un péché. C'était quoi le regard, les yeux ont vu Bathsheba. Le regard, les yeux. Mais bien-aimés, faisons attention à ce que nous regardons. Faisons attention à ce que nous voyons. Faisons attention à ce que nous lisons. Parce que nos yeux peuvent être une porte d'entrée du mal en nous. D'ailleurs, le psaume 119, le verset 37 dit ceci. Psaume 119, verset 37 dit « Détourne mes yeux de la vie des choses vaines. Fais-moi vivre dans ta voie. » Voilà ce que les psalmistes déclarent. « Seigneur, détourne-moi. » Il s'y plie, le Seigneur dit « Père, détourne mes yeux de la vie des choses vaines. Mais fais-moi vivre dans ta voie. » Ça voudrait dire que nos yeux, normalement, ne peuvent pas voir tout et n'importe quoi. Parce que certaines choses ne valent pas la peine qu'ils puissent être vues. Attention, frères et sœurs, la Bible dit attention. Faisons attention sur tout ce que nous regardons, tout ce que nous voyons. Nous devons trier. Nous devons faire le tri. Détourne mes yeux de la vie des choses vaines. Et Dieu veut que les yeux de l'homme se plaisent dans ses voies. C'est ce que le Seigneur veut. Que nos yeux, que tes yeux, que mes yeux se plaisent dans les voies de notre Dieu. Nous devons regarder que ce qui glorifie Dieu, ce qui est en accord avec la volonté de Dieu. C'est ce que nos yeux peuvent voir, peuvent lire. Faisons très attention. C'est pour cela que vous voyez dans d'autres familles, ils interdisent certaines choses, ils ont pris des précautions pour certaines choses pour les enfants. Oui, c'est bien, mais il faut au moins instruire les enfants parce que, et quand ils sont dans la rue, et quand ils sont avec leurs copains, dehors, tu n'es pas là. Tu n'es pas là. Autant éduquer les enfants, instruire les enfants dans la parole de Dieu. Tu peux mettre à la maison, on dit c'est le contrôle parental, c'est ça. Il y a un logiciel là, donc pour. Mais oui, c'est bien bon. Mais et quand ils sont à l'école, quand ils sont entre amis, c'est ça le problème. Et toi-même, quand tu es dans le métro, avec toutes les publicités là que nous voyons. Il n'y a pas de contrôle parental dans les publicités, dans le métro. Voilà. Non, mais c'est la connaissance de la parole de Dieu qui doit nous guider maintenant que nos yeux ne peuvent pas voir n'importe quoi parce que Dieu veut que les yeux de l'homme se plaisent dans ses voies. La convoitise de la chair et la convoitise des yeux concernent notre satisfaction. Et elle se réfère à notre désir, non pas comme Dieu veut que nous soyons satisfaits, mais comme la vieille nature le veut. C'est ça le problème de la convoitise de la chair et des yeux. Non pas comme Dieu veut que nous puissions être satisfaits, mais d'après ce que notre chair, notre vieille nature veut que nous puissions être satisfaits. Ensuite, l'apôtre Jean évoque le troisième sous-point, l'orgueil de la vie. L'orgueil est une ambition de montrer ce qu'on est, ce qu'on possède, ce qu'on fait. Et on peut citer beaucoup de choses, la liste est longue. mais nous allons toujours revenir dans le jardin d'Éden. Dans le jardin d'Éden, le serpent a réussi à semer cet orgueil dans le cœur de la femme. Il a réussi. Qu'est-ce qu'il a fait? Ève dit, qu'est-ce que Ève a dit? L'arbre était précieux pour ouvrir l'intelligence. Et qu'est-ce que le serpent lui a dit? Le serpent lui a dit, le serpent lui a dit, le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comment? Vous serez comme des dieux. Vous serez comme des dieux. Vous serez comme des dieux. Oui, le serpent était malin et il a réussi à semer cela dans l'esprit de Ève. Et vous savez, vous serez comme des dieux. Et Ève a crié cela parce que ça, c'est quoi? C'est de l'orgueil de la vie. Vous serez intelligent. Vous serez comme Dieu. Vous savez, l'homme charnel, dans son orgueil, l'homme charnel aime se comparer aux autres. On le voit souvent, hein, surtout au travail. Oh là, qu'est-ce qui se dit au travail? Surtout quand le collègue n'est pas là ou est en congé, il est absent. Oh là 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 là. Celui qui vient le remplacer, mais on entendra toutes sortes. C'est pas comment il travaille. C'est pas possible. Hein? Moi, je suis pas comme lui. L'homme charnel, bien entendu, aime la comparaison. Ça, c'est l'orgueil de la vie. Et le serpent a réussi à mettre ça dans l'esprit de la femme. Il lui a dit que vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux. Donc, il a comparé avec vous. Donc, tu seras comme Dieu. Ça, c'est l'orgueil de la vie. Vous savez, souvent quand on cherche à se faire valoir, c'est pourquoi? C'est pas pour s'abaisser, hein? C'est pour s'élever. Quand on cherche à se faire valoir, c'est pour s'élever. Vous serez comme Dieu. On s'élève. Je ne serai plus à ce niveau-là que Dieu m'a mis. Non, je veux monter d'un cran. Oui, quand on cherche à se faire valoir, c'est pour s'élever. Mais le Seigneur Jésus-Christ a enseigné ses disciples quelque chose. Il leur a dit d'avoir un esprit qui cherche à s'abaisser plutôt qu'à se lever. Que celui qui veut être plus grand soit le serviteur de tous. Et Jacques, chapitre 14, verset 10, nous lisons ceci. Dans Jacques, chapitre 4, et le verset 10, nous lisons ceci. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. L'apôtre Jean aussi, plus tard, dans 1 Pierre, l'apôtre Pierre, dit dans 1 Pierre chapitre 5, verset 5, il dit ceci, « Revêtez-vous d'humilité, car Dieu fait quoi? Dieu résiste aux orgueilleux et fait grâce aux humbles. » C'est ce que la parole de Dieu dit. Frères et sœurs, l'amour du monde est l'amour des choses qui passent. Le monde passe et sa convoitise aussi. Alors pourquoi perdre du temps d'aimer le monde et tout ce qui est dans le monde? Parce que ce sont des choses qui vont passer. Et cela nous amène à la troisième raison avancée par Jean. La première raison, c'était quoi? Jean a dit qu'il y a opposition entre l'amour du monde et l'amour du Père. La deuxième raison de ne pas aimer le monde que l'apôtre Jean a avancé, c'était tout ce qui est dans le monde ne vient pas de Dieu. Et la troisième raison que Jean a avancée, c'est la fragilité du monde par rapport à l'éternité. La fragilité du monde par rapport à l'éternité. Et nous lisons au verset 17, ceci, « Et le monde passe et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. » Le monde passe et sa convoitise aussi. Oui, la dernière raison de ne pas nous attacher au monde est que ce monde est en train de disparaître. Ce monde disparaîtra. Le monde et ses convoitises passeront. Mais si tu demeures en Jésus-Christ, si tu fais la volonté de Jésus-Christ, toi, tu vas demeurer éternellement. Celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Et frères et sœurs, regardez une chose, que le contraire d'aimer le monde n'est pas seulement d'aimer le Père. Il ne faut pas s'arrêter là, au verset 15. Il faut aller jusqu'au verset 17. Le contraire de ne pas aimer le monde, ce n'est pas seulement d'aimer le Père, mais aussi faire sa volonté. C'est ce qui est dit au verset 17. C'est ce qui est dit au verset 17. Et le monde passe et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Ne mets pas le monde. C'est vrai, on ne s'arrête pas là, mais fais aussi la volonté de Dieu. Le Seigneur Jésus-Christ a dit à ses disciples, « Si vous m'aimez, vous garderez quoi ? Vous garderez mes commandements. » Voilà. Ce n'est pas que de ne pas seulement aimer le monde, mais garder aussi les commandements de Dieu. L'apôtre Jean écrit plus tard dans 1 Jean, chapitre 5, le verset 3, qu'est-ce qu'il écrit, qu'est-ce qu'il dit ? L'apôtre Jean dit, « Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements, et ses commandements ne sont pas pénibles. » Ce n'est pas seulement le fait de rejeter l'amour du monde, mais aussi garder les commandements de Dieu, c'est-à-dire faire sa volonté. L'amour pour Dieu et faire sa volonté sont deux choses inséparables, d'après l'apôtre Jean. Deux choses inséparables. Ah non, moi, le monde ne me dit rien, mais tu ne fais pas la volonté de Dieu. Tu n'as rien fait, frère. Tu n'as rien fait. Frères et sœurs, nous ne devons pas vivre pour un monde qui passe. Nous devons regarder non point aux choses visibles de ce monde, car les choses de ce monde, les réalités de ce monde sont passagères. Les réalités de ce monde sont passagères. Mais regardons aux choses invisibles qui sont éternelles et qui demeurent éternellement. Et lorsque le Seigneur Jésus-Christ, le bon berger, apparaîtra, dit la parole de Dieu, nous obtiendrons quoi ? Nous obtiendrons la couronne incorruptible de la gloire éternelle. Pour finir, frères et sœurs, ne désirons rien d'autre que Dieu. Ne possédons rien d'autre que Dieu. Aimons le Père et non le monde. Le monde et ses désirs passent, mais quiconque fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Ce qui vient du monde s'oppose à ce qui vient de Dieu. Et ce qui vient du monde est temporaire, éphémère, passager, alors que ce que Dieu donne est éternel. Nous allons conclure par ce verset biblique pour finir notre méditation. La conclusion, notre conclusion, c'est dans Romains, chapitre 13. Romains, chapitre 13 et le verset 14, et nous allons conclure par ces versets. Romains, chapitre 13 et le verset 14. La parole de Dieu nous dit, Romains 13, verset 14, « Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire le convoitise. » Que le Seigneur bénisse sa parole. Prions le Seigneur. Seigneur, merci pour, pour ta parole merveilleuse, cette parole qui nous enseigne, qui nous instruit, qui nous corrige, Seigneur, qui nous édifie. Seigneur, aide-nous, Seigneur, à rejeter toute chose qui vient du monde, Seigneur, d'aimer toi, notre Dieu, plus que toute chose, parce que c'est toi qui nous as montré l'amour, Seigneur, et que notre amour pour toi soit infaillible, Père. Qui pourra nous séparer de l'amour de l'Éternel? Ce n'est pas les tribulations, ce n'est pas la faim, Seigneur, ce n'est pas la nudité, ce n'est pas le manque, Seigneur. Mais aide-nous, Seigneur, à rester ferme et à faire ta volonté. Car le monde passe et se convoitise. Mais, Seigneur, l'assurance que nous avons en toi, cette vie éternelle que tu nous donnes en Jésus-Christ, Seigneur, demeure éternellement. Au nom de Jésus. Amen.